Bien, bonjour à chacun et chacune, hein, présent, présente, hein, pour ce petit moment, hein, comme effectivement le rappelait Roselyne, comme nous en parlions. Je propose vraiment que nous soyons aussi en lien aujourd'hui, dans ce moment de partage, hein, que nous puissions, comme nous le faisons habituellement, hein, dédicacer ce moment de fraternité, hein, de partage pour notre bien-être, mais aussi pour le bien-être de tous et de tout. Et en lien donc avec la transmission que propose aussi notre frère Swami Atmananda, hein, donc dans le lieu là donc de méditation, en lien avec cette belle expérience, hein, de la non-dualité, ou en lien avec la transmission autour du père Henri Le Sceau, hein, dont il s'inspire. Puis la présence également du père Jean Séraphin, hein, de Jean-Yves Leloup, qui est aussi là à Tétra aujourd'hui, ce week-end. Donc voilà, la divine providence a fait que ces trois moments soient là en comme une trinité de moments, hein, qu'on soit vraiment les uns avec les autres, en lien profond, hein, de fraternité, pour honorer l'être qui fait être toute chose, hein, quel que soit le nom que nous pouvons lui donner, hein, chacun et chacune dans son appartenance aujourd'hui à la tradition qui est la sienne pour beaucoup d'entre nous, en lien avec la paroisse du Lillois. Donc en remerciant bien sûr Père Bernard, Dominique, voilà, Marc et Françoise, et puis tous ceux et celles qui sont là, qui nous accueillent, membres du clergé et membres laïcs, hein, de toute cette belle paroisse du Lillois. Donc, bien sûr, ce moment étonnant, et j'aime bien, effectivement, nous aimons bien tous commencer ce moment de partage, tourner vers l'Est et chanter cette prière à l'Esprit-Saint. Vous savez combien l'Esprit-Saint, en hébreu, Kadosh Arroir, l'Esprit de sainteté, l'Esprit autre, c'est aussi un souffle. Hein, et combien chacun, chacune d'entre nous, hein, dans ce beau lieu aussi, dans la présence donc, de ce gardien qui est Bernard, hein, que nous puissions tous ensemble, quelques instants, nous donner rendez-vous, non plus simplement par l'extériorité, mais par l'intériorité. Je nous propose quelques instants de nous rencontrer par le dedans. Ce moment où tourner vers l'Est, tourner vers l'Orient, tourner vers le plus antique de nous-mêmes, tourner vers le grand Orient intérieur. Nous allons tout doucement nous détourner pour nous arracher à la fascination, à l'hypnotisation du monde extérieur, quels que soient ces lieux d'attachement à la fois à des situations extérieures, mais aussi à des modes de fonctionnement qui sans arrêt nous extériorisent. Je propose de revenir à l'intérieur. Dans ce mouvement de retournement, de repentir, de teshuva, comme nous l'expliquent ces grands mots de la tradition. Teshuva en hébreu, metanoia, mais aussi epistrophe en grec. Penitentia, en latin, signifiant ce mouvement de retour vers l'être. Comme une convocation, comme une réponse à un appel, nous sommes appelés sans arrêt en pèlerinage. Appelés à nous arracher à tout ce à quoi nous sommes identifiés. Appelés plus profond que les nuages noirs de notre monde intérieur par une présence bleue, cette grande présence d'un ciel qui habite qui fonde ce ciel bleu. Dans une présence au corps que nous sommes, être là. Dans le lien à ses pieds, la plante des pieds posée, reliée de manière vivante au corps de la terre-mère qui nous soutient. À travers les pieds, les chevilles, les genoux, l'articulation des fémurs dans les hanches, être là dans son bassin. Cette coupe du bassin dans laquelle est plantée l'arbre de la colonne vertébrale qui vient fleurir au sommet du crâne. Retrouvant cet axe tertiel, dans la présence à ce qui est là, dans la sensation du corps, sensation de ces rayons osseux, cette architecture dans les fondements de notre être. Laissez se déployer, respirer les organes, nos tissus conjonctifs, nos espaces intercellulaires, notre lymphe, nos fascias, notre sang. Ces mers d'énergie, ces fleuves d'énergie, ces montagnes, ces vallées, ce paysage de notre monde intérieur, traversé de vent, de souffle, traversé d'émotions, de pensées, être là, avec tout ce qui est là, agréable ou désagréable. Commencez par asseoir sa journée sur un linge de silence. Descendre au profond de soi, en dessous des mots MAUX, en dessous des mots MOTS. Dans ce lieu sans lieu, où s'annonce une rencontre. Ne rien vouloir, sinon être là. Dans l'ouverture à ce qui vient, se laisser faire, se laisser défaire, par la pulsation de l'éphémère. jusqu'à cet agenouillement du dedans. Qui signe la vraie prière. Quelques minutes à offrir pour notre bien-être et le bien-être de tous et de tout. Voilà notre propos. À travers ce thème, comme le rappelait tout à l'heure le Père Bernard, de l'incarnation, est un thème immense que nous avons souvent entendu ou appréhendé de manière extérieure dans nos lieux ecclésiaux, comme si souvent tous ces mystères qui nous rejoignent ou que nous entendons souvent avec les oreilles ou que nous contemplons avec un regard d'être exilé de nos profondeurs. Et souvent nous entendons ces mystères d'un point de vue extérieur. Et jusqu'à même aujourd'hui, vous le savez bien, dans un Occident souvent en amnésie, en oubli de ce pourquoi nous avons été créés, Noël est devenu tellement une fête où nous oublions complètement le sens de l'histoire. Et que ce pourquoi en vérité nous célébrons Noël, eh bien, cette naissance de Dieu au cœur de l'humanité, cette manifestation de la naissance, se vit souvent dans l'absence du principal invité, qui est le Christ lui-même. Et souvent nous vivons la fête de Noël beaucoup dans des moments très extérieurs, d'un rendez-vous familial, où finalement nous donnons toute puissance à l'enfant extérieur, qui devient un peu l'enfant roi, en oubliant complètement, je dirais, de redonner la juste place, il me semble, à un moment donné, à l'enfant intérieur. Et en rencontrant vraiment le mystère de ce que... et on sent bien qu'aujourd'hui, nous vivons particulièrement en Occident, une espèce de paroxysme, je dirais, d'oubli de ce pourquoi nous sommes créés, dans une totale extériorisation, un oubli complet, jusqu'à même aujourd'hui, vous le savez, au nom d'une laïcité parfois qui est devenue un laïcisme un peu outrancier, d'éliminer même les crèches et toute forme de, je dirais, de traces, en tout cas dans certains lieux, et nous oublions complètement derrière tout cela, en vérité, le sens de l'histoire. Nous oublions complètement, dans un monde atomisé, en état d'apostasie, diront certains, combien ces mystères rejoignent la beauté de l'être humain. Et combien là, ensemble, peut-être simplement, ces quelques heures passées, ce que vous faites aussi, bien sûr, chacun et chacune, dans vos vies, dans nos vies liturgiques, dans nos rassemblements, dans nos prières, sans arrêt, revenir à ce lieu intérieur, à ce lieu où aujourd'hui s'accomplit quelque chose d'inouï. Hein, où cours-tu donc, être humain ? Nous rappelle la grande tradition. Où cours-tu donc à l'extérieur de toi-même ? Ne situes pas qu'en cet instant se vit où se met en place, où s'engendre une présence mystérieuse dans ton cœur. Où cours-tu donc à l'extérieur de toi-même? Ne sais-tu pas qu'en cet instant, un mystère inouï s'accomplit? Nous sommes totalement extériorisés dans beaucoup de dimensions de notre humanité, et toute la parole qui nous est rappelée, qu'on va essayer de réentendre aujourd'hui à travers l'évocation de ce thème, c'est reviens, reviens, redeviens pèlerin, pèlerin de l'intériorité. Retrouve cet état d'homo peregrinus, d'homo viator, d'homme voyageur, d'homme pèlerin, en t'arrachant à cette extériorité tellement fascinante pour revenir à cette dimension de l'intériorité. Reviens, reviens. Nous allons l'aborder, si vous le voulez, à travers différentes déclinaisons. Nous ne ferons que rappeler aujourd'hui ce que nous savons tous. Mais nous avons régulièrement, nous savons bien, besoin de faire œuvre d'anamnèse. Ces images, ces textes voudraient être des textes d'incandescence qui voudraient nous ramener à la braise de l'intériorité. Nous avons pris froid à l'âme. Pris froid, je dirais, dans toutes nos logiques corporelles, dans tous nos corps, nous avons pris froid à l'âme et nous avons besoin régulièrement de revenir, de retoucher, de nous rassembler autour du feu de la conscience, autour du feu de la vie, autour du feu de l'être, qui finalement ce pèlerinage et ce voyage que nous faisons vers la grotte de Bethléem, pour retrouver là, là-bas, chez nous, dans les profondeurs de notre être, ce lieu d'incandescence, ce lieu où nous contemplons, où nous nous réunissons, où nous rassemblons tous nos corps d'humanité pour nous réchauffer à la présence de l'être. Ces textes donc nous disent, à travers ce cycle liturgique, et qu'il est bon finalement de se rappeler quand même quelques instants avant de rejoindre, ou en tout cas participant à ce thème de l'incarnation, cette grande période préparatoire que régulièrement nous vivons dans nos vies liturgiques, dans nos cycles liturgiques, qu'on appelle l'Avent. L'Avent qui est en vérité, vous le savez, une traduction de ce mot latin qu'on appelle, qui se nomme Adventus, ou Adventum, et qu'on traduira en termes grecs par parousia, qui est la notion derrière le mot d'Adventum, d'un événement, d'une arrivée, nous dit le mot latin. Et le mot grec, parousia, nous dit quelque chose de l'ordre d'une présence. Comme si finalement l'avant voulait honorer, signifier un état de préparation, qui, vous le savez, dans la tradition occidentale, très tôt, et cette première période qui introduit le temps liturgique. Nous entrons avec l'Avent dans la nouvelle année liturgique. Et qu'il est bon d'entendre ce moment où finalement, là où dans nos chemins spirituels, nous avons tellement tendance souvent à penser élévation spirituelle, la grande tradition, je dirais, sotériologique, la grande tradition du salut de l'être humain manifestée dans l'Église, nous dit, alors que nous pensons élévation, nous dit descendez. Descendez dans la matière du monde, descendez dans l'opacité de la nuit et de la matière, parce que c'est là qu'est le salut. C'est là que siège le salut, dans les profondeurs. Descendre donc dès le 11 novembre, dès le 12 novembre, dans ce moment de raréfaction du jour, parce que la nuit devient plus importante, plus prégnante, dans ce retrait du jour, comme si nous cheminions pendant toutes ces semaines pour rejoindre ce lieu le plus bas, ce lieu le plus profond dans la matière de la nuit, en tout cas dans l'hémisphère nord, ce lieu où quelque part nous descendons, donc dans ce moment de l'Avent, pour honorer pendant ces 6 semaines, c'est ce moment de préparation. Préparation à l'attente. Et vous savez que Adventum Parousia, l'événement d'une présence au milieu donc de nous, signifiée par cette manifestation extérieure de la naissance de Jésus, du petit enfant Jésus, à Bethléem, dans le contexte historique. Mais finalement, si nous étendons ces cercles de cette conscience, en vérité, le temps de l'Avent régulièrement nous replonge ou voudrait muscler ou nous inviter à entrer ou à entendre ce temps que nous avons du mal aujourd'hui dans nos temps dans cette occidentalité tellement pressée, retrouver le mystère de ce temps de l'attente. Ce temps où nous écoutons, où nous sommes convoqués, où nous nous mettons en capacité de recevoir une information. Ce temps de l'attente qui est un temps d'intériorisation et qui finalement, non seulement à travers cette dimension historique de l'enfant Jésus, mais aussi pour tout processus d'événements dans notre vie, serait régulièrement célébré, préparé par ce temps d'avant. L'adventum, l'avènement, l'événement n'est pas uniquement que l'événement du Christ naissant à Bethléem il y a 2000 ans, c'est aussi ce climat, je dirais, de toute cette dimension d'un événement, d'une présence en devenir qui appellerait à venir au jour du cœur même de notre vie. C'est, il y a au milieu de nous quelqu'un que nous ne connaissons pas, qui veut advenir. Il y a au milieu de nous un être, un Dieu en devenir, avec un petit dé. Il y a au milieu de nous, de notre humanité, un destin étonnant, je dirais une présence qui appelle à advenir. Cette présence synonyme de joie, de paix, de bonheur, de vie, c'est cette dimension dont nous sommes enceintes, tous, chacun et chacune. L'Avent, vous le savez, est particulièrement donc honoré et habité de trois présences. Je ne fais que rappeler des choses que certains connaissent bien. Donc ces trois présences que nous retrouvons régulièrement à travers cette présence à la fois historique mais aussi fondatrice, cette présence du prophète Isaïe, que certains bien sûr connaissent bien, c'est la première personne qui apparaît, ce prophète de l'incarnation qui annonce le premier, la naissance, l'incarnation, la venue au monde de celui qui est, prenant chair d'une vierge. Mais la grande parole d'Isaïe, j'ai envie de dire, en particulier en reprenant son chapitre 6 de sa vocation, c'est « Me voici, Seigneur, me voici ». Et c'est peut-être ce petit mot que nous pourrions retenir ou récolter de la présence du prophète Isaïe en lien avec cette grande dimension de cet homme historique qui habite la Bible, donc, dès le 8e siècle, Isaïe, moins 740, moins 700, à peu près 40 ans, donc de mission au cœur du peuple juif, du peuple hébreu. Donc, me voici, Seigneur. Peut-être c'est une parole pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Je ne sais pas où je suis, fatigué, parfois désespéré, parfois perdu, parfois errant, parfois au contraire plein de force et de joie. Chacun sait où est-ce qu'il est aujourd'hui. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici pour recevoir aussi dans cette intériorité cette autre présence qui vient féconder régulièrement l'avant, la présence de Marie, la présence de cette maternité, de cette mère qui nous ramène à cette maternité extérieure, mais aussi intérieure. Marie est l'un des grands piliers, nous le savons, une des grandes colonnes qui habite aussi les fondements de l'avant. Et Marie, nous savons bien, en tant que terre de confiance, de silence, son petit mot tout simple, fiat, 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 qu'il en soit fait selon ta volonté. Nous l'approfondirons, vous le savez, demain, puisque non seulement Marie introduit ce temps de l'avant avec cette grande fête de la présentation au temple de Marie, mais aussi dans la tradition également occidentale, honoré par l'Église des Gaules, l'Avent se conclut par la fête de l'Annonciation, que nous honorerons demain matin. Donc vraiment ce temps de cette présence mariale, et vous le savez, l'autre colonne avec Isaïe et Marie, c'est la grande présence de Jean le Baptiste. Celui qui est le grand messager de l'Avent, dont la présence bousculante, prophétique, dont la parole vient sans arrêt nous secouer, c'est celui qui vient nous ramener, nous ouvrir, rendre droit le chemin du Seigneur. C'est le grand cantonnier du Christ. Celui qui vient ouvrir des espaces en nous. C'est la présence intérieure qui vient abaisser tous ces lieux de prétention ou d'inflation, ces grandes montagnes, comme le dit la parole d'Isaïe, que les montagnes s'abaissent. C'est aussi lui qui vient combler ces grands espaces dépressifs, dépression, ces grandes vallées, hein, on pourrait le dire, à travers ce repaysage, cette manière de repaysager l'intériorité. Le prophète, Jean le Baptiste, vous savez, la grande parole, c'est « non sum », « je ne suis pas ». Je ne suis pas. Quelqu'un d'autre est. Et c'est parce que je consens à ne pas être ou à reconnaître que je ne suis pas, que je laisse l'être advenir. Il faut que moi diminue pour que toi, Seigneur, je suis plus grand que moi en moi, apparaisse. Jean le Baptiste. Cette grande dimension de Jean le Baptiste à ce grand précurseur, donc ces trois présences, hein, le prophète Isaïe, la Vierge Marie et le prophète Jean-Baptiste, au service, dans le lit de cette préparation, à travers ce reconditionnement, cette réinformation de notre intériorité, faire la place, devenir des grandes places nues, pour que du cœur même de ce vide fécond, quelqu'un apparaisse. Un être nouveau, une présence. C'est notre histoire à nous. C'est le destin, la plus haute destinée de l'être humain. C'est pas uniquement de croire, c'est pas uniquement de célébrer, diront certains. Le plus grand destin de l'être humain, c'est de faire Dieu. De mettre au monde, de le révéler, de le devenir, plus que de l'imiter, de le devenir. C'est incroyable, inouï ce destin de l'être humain. L'être qui est ce qui est, s'est déposé de manière inaccomplie en nous, et nous avons cette possibilité en disant oui, et en prenant soin de cette dimension, de le révéler, de l'accomplir, de le mettre au monde. Je crois que tout est déjà dit à travers cela, le rappel de cette dimension de l'avant. On va le décliner, on va l'approfondir, pour que des espaces nouveaux, plus grands, s'ouvrent dans toutes nos matières humaines, tellement souvent encombrées, tellement prises en elles-mêmes, tellement crispées. Cette grande parole hein, du pasteur Francine Carillo, laissons-nous faire, mais surtout laissons-nous être défaits. Défaits. C'est tout le chemin. Tout le chemin. Voilà simplement d'accueillir ce qui est là. Et de laisser tout simplement se dénouer, se décrisper pour permettre à l'inouï de Dieu d'apparaître dans cette naissance, hein, cette naissance donc signifiée par voilà, des images que beaucoup connaissent, hein, donc des images un peu d'Épinal. Ces images d'Épinal, cette iconographie, je dirais, cette icône, ces représentations de dire au mieux ce mystère de la naissance, nous pouvons l'appréhender, vous le savez, de manière générale, par ces quatre portes de connaissance que nous rappelle, dans une approche peut-être plus contemporaine, quelqu'un comme Jung. Vous vous rappelez ces quatre portes, raison, intuition, sensation et sentiment, qui font appel à ces quatre portes comme si ce mystère de l'ineffable, de ce qu'il y a à se dire là au milieu de nous, ne pouvait ne s'approcher, si vous voulez, qu'en ouvrant ces quatre portes, déjà en comprenant, en contemplant, en le ressentant dans le cœur, dans cette amoureuse attention, nous le verrons au cours de cette journée, et puis, je dirais, dans cette capacité de l'intégrer dans le corps, dans ses os, dans ses tissus, dans son sang. N'est-ce pas, en hébreu, le nom de Adam, Aleph Dam, Dieu dans le sang. C'est vraiment le nom qui nous rassemble. Et donc, simplement, à travers ces quatre fonctions, nous avons aussi à notre disposition, un grand réservoir d'écriture, d'un verbe qui voudrait nous dire ce qu'a pu être ce mystère, pour l'approcher, et encore une fois, pour nous aider à mieux l'intégrer, à mieux l'entendre, à mieux l'écouter, parce que c'est un mouvement qui habite en nous. C'est un mouvement de vie qui habite en nous, qui nous est donné au commencement même de notre être. La dimension liturgique va être là très présente aussi, et à travers elle, l'iconographie qui va nous aider à entrer dans ce mystère, à réentendre ce mouvement de cette naissance dans le sein d'une tradition et qui nous conduit à cette dimension de silence et d'adoration. Voilà, ce matin, dans une première partie avant la pause, je vais simplement redécliner les choses que nous connaissons déjà, simplement pour le resituer à travers peut-être des approches plus connues, et en particulier, si nous commençons donc en déclinant ces différents registres que nous connaissons bien, parce que nous les fréquentons régulièrement dans nos églises quand arrive ce temps de l'Avent, de Noël, c'est de reprendre ces différents espaces, ces différents lieux de transmission que sont les évangiles, ces bonnes nouvelles, qui vont donc particulièrement se décliner à travers donc trois évangiles dont on ne va pas forcément rappeler toute la profondeur, simplement le ressignifier parce que nous allons retraverser ces textes donc ces prochains jours, ou en tout cas on va s'y approcher. L'évangile de Matthieu, je vous ai rappelé simplement les références, cet évangile de Matthieu qui rappelle après cette généalogie, qui va plutôt donc inscrire Jésus dans une dimension d'appartenance au peuple juif. La tradition, rappelez-vous, l'évangile de Matthieu est le plus rabbinique. C'est celui qui va faire appel sans doute à le plus profondément à l'inscription au premier testament. Ce premier, l'évangile de Matthieu, on pourrait dire, nous enracine. Il rend vraiment cette généalogie au peuple hébreu, donc dans cette généalogie qui fait partir donc Jésus d'Abraham, ou en tout cas qui fait partir le fils d'Abraham et qui vient l'inscrire, je dirais, dans le peuple hébreu, avec cette visite des mages, cette fuite en Égypte, le massacre des innocents, le retour d'Égypte, tous ces grands événements signifiés et consignés dans ce premier évangile de Matthieu, qu'on va faire miroiter avec ce deuxième évangile, deuxième approche lucanienne de Saint-Luc, qui est peut-être plus une dimension universelle, où finalement, rappelez-vous, dans cette généalogie de Luc, Jésus, nous partons du peuple hébreu, il est fils de Joseph, donc de manière, je dirais, adoptive, et il va devenir fils d'Adam, fils de Dieu. Comme si la généalogie ou l'évangile de Matthieu nous enracine en terre, l'évangile de Luc, nous pourrions le dire, nous enracine en ciel, dans cette dimension, cette nature céleste. Et où Luc, vous savez, à travers toute cette approche aussi, cette interpénétration du mystère de Jean, donc Jean et Jésus, particulièrement dans l'évangile de Luc, eh bien, va honorer, lui particulièrement, le lien au berger, le lien à la visite donc de ces bergers. Et puis en tant qu'historien, il replace bien sûr très précisément l'inscription, l'événement de la naissance de Jésus au cœur de l'histoire de l'humanité. Sous Quirinius, enfin vous rappelez tous ces détails. Donc je ne vais pas rappeler le détail de ces évangiles puisque nous allons être invités à les réapprofondir ces prochains jours. Je me permets simplement, en lien avec ces évangiles de Matthieu et de Luc, d'ouvrir cette porte aussi étonnante d'une littérature que nous retrouvons et qui a beaucoup inspiré l'iconographie, c'est pour ça que je me permets de la déposer là, c'est cette littérature apocryphe. À côté des évangiles dits canoniques, il existe un réservoir de textes dits apocryphes, littéralement sous l'écriture, de textes cachés, qui nous parlent aussi, qui nous parlent de cette dimension de l'incarnation, peut-être souvent de manière, diront certains, un peu trop pléthorique, un peu trop imagée, même peut-être parfois un peu imaginaire. Voilà, l'ascension d'Isaïe, le proto-évangile de Jacques, l'évangile de l'enfant du pseudo-Matthieu, la vie de Jésus en arabe. Donc, pour ceux qui veulent approfondir ces textes, je vous rappelle cette belle collection Gallimard, écrit apocryphe chrétien, donc qu'on retrouve en deux tomes. Et simplement une petite parole ou un petit passage étonnant qu'on retrouve par exemple dans l'évangile, dans le proto-évangile de Jacques, le moment où Joseph témoigne justement de ce mystère de l'incarnation. Où là donc, il y a Marie et Joseph donc ont été introduits dans une grotte, hein, donc c'est vraiment tout ce thème qu'on retrouve dans le proto évangélique de Jacques. Et simplement, certains connaissent peut-être ce texte, mais j'aime bien le resituer pour nourrir un peu notre travail. Or moi, Joseph, c'est intéressant parce qu'arrive ce moment où, eh bien, la naissance de Dieu sur terre arrive, et là, on quitte un peu ce registre de Matthieu et de Luc, et là, ce proto-évangile de Jacques va proposer une parole très poétique, antinomique, vous allez le voir, pour signifier ce mystère d'une éternité qui rentre dans le temps, de l'infinitude qui se fait finie. Et là, il n'y a plus que la poésie ou le langage antinomique. Or moi, Joseph, je me promenais et je ne me promenais pas. Et je levai les yeux vers la voûte du ciel et je vis qu'elle était immobile. Et vers l'air, et je vis que l'air était figé d'effroi et que les oiseaux du ciel ne bougeaient pas. Et je jetai les yeux sur la terre et j'y vis placer une écuelle et des ouvriers couchés pour le repas. Et leurs mains étaient dans l'écuelle. Et ceux qui mâchaient ne mâchaient pas. Et ceux qui portaient la nourriture à la bouche ne l'y portaient pas. Mais tous avaient le visage qui regardait vers le haut. Et je vis des moutons qu'on faisait avancer, et les moutons restaient sur place. Le berger leva la main pour les frapper, mais sa main resta en haut. Je jetai les yeux sur le courant de la rivière, et je vis des chevreaux et leurs museaux placés au-dessus de l'eau, et qui ne buvaient pas. Vous voyez, ce moment où la parole, à travers ce texte apocryphe, qui peut être interprété comme totalement incompréhensible, imaginaire, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le moment où, lorsque nous entrons dans cette poésie, c'est « Ah !» Là, on touche à la fois au mouvement infini et à l'immobilité. Quelque chose de la matière du monde qui se donne à être éprouvé par le cœur de Joseph et quelque chose à la fois qui est le mouvement et l'arrêt du mouvement. Au moment où l'incarnation, où la manifestation se fait, et soudain, tout était de nouveau repris par son cours. Voyez un peu cette poésie. Hein. Donc voilà, c'est un texte que certains connaissent ou découvrent aujourd'hui. Mais ces textes sont là aussi, bon voilà, ils ont été aussi très féconds parce que ce sont de ces textes-là qu'on a pu par exemple définir un petit peu cette scénette hein, de ces deux femmes, sages-femmes, donc s'occupant de l'enfant. Voilà, tout un ensemble de détails aussi, hein, donc de cette icône, nous le verrons tout à l'heure, à la fin. Premier partage ce matin, voilà, des chaînes aussi qui ont été intégrées, ne faisant pas partie des évangiles canoniques, mais nourrissant notre contemplation. Donc, ce moment mystérieux, qu'est-ce qui se passe dans la matière quand l'éternité rencontre le temps, quand l'infini visite le fini, quand la lumière incréée rencontre, se manifeste au cœur de la matière, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend rien, c'est pas de l'ordre de la compréhension, hein. C'est de l'ordre, je dirais, de l'au-delà, c'est de l'ordre des mots qui bafouillent. Hein. Ça marche et ça ne marche pas, on boit et on ne boit pas. On sent bien cette espèce de, devant le mystère, hein, ce langage antinomique, hein, propre au dogme que l'on retrouve bien là dans cette littérature apocryphe. Voilà, je continue simplement l'évocation de ces sources scripturaires. Et vous vous rappelez, bien sûr, à côté de Jean, à côté de Matthieu, de Luc et de ces écrits apocryphes, que bien sûr, l'une des grandes sources aussi de cette source de l'incarnation, aussi connue hein, pour beaucoup d'entre nous, parce que régulièrement contemplée, c'est cette contemplation ailée. J'allais dire aiglé de Jean l'évangéliste, qui lui quitte totalement la strate de l'historicité ou de la description des événements autour de la naissance, au cœur du temps, mais nous parle, à travers son prologue, de cette incroyable contemplation, cette contemplation inouïe, où Jean nous fait entrer dans le mystère, je dirais, de ce qui pourrait être l'engendrement du Fils dans le sein de la divine Trinité. Et que ce Fils, ce Verbe, ce Logos, dont il est question de la grande philosophie des différentes écoles philosophiques d'Athènes, comme ce soutien, comme ce lien tenant ensemble toutes les choses de l'univers, ce logos, ce verbe, a pris cher. Et Jean nous fait entrer dans les profondeurs de la divine, dans l'incréé divin. Mais il nous fait aussi, par son écoute amoureuse, il nous fait aussi entrer dans l'architecture de la création, dans les profondeurs de la création. Et il découvre que ce verbe, que ce logos, tourné vers le Père, dans l'incréé, eh bien, fonde toute la création. Chaque chose vivante est habitée, est fondée d'un logos, d'une présence, d'un verbe qui fonde toute chose. Sans lui, rien. Tout existe par lui. Sans lui, rien. Hein, comme principe créateur. Hein, donc ce logos, rappelez-vous, dans cette écoute amoureuse de Jean, va nous faire entrer vraiment dans cette dimension, cette contemplation bouleversante hein, de ce logos, donc, ou de ce prologue, à la fois avec ce verbe, cette traduction, hein, au commencement était le verbe, au passé, au commencement le logos, hein, qui est plus une traduction au présent, hein, je reprends là la traduction qu'on a proposée par Jean Séraphin, la traduction de la Bible de Jérusalem ou de la Tob, hein, donc j'ai sans doute la Bible de Jérusalem, j'ai plus les références maintenant. En tout cas, cette manière, cet évangile de Jean, je dirais, nous rappelle les fondements de notre être, que nous sommes habités hein, de, au commencement, en arché en grec, qui reprend, vous savez, ce mot hébreu, qui scintille au sommet, au début de la Bible, Bereshit, au commencement, in principio en latin, hein, en vous rappelant que derrière ce mot Bereshit, bien sûr, apparaît cette grande lettre qui est la première lettre du texte biblique en hébreu, qui est Beit, la maison. Et dans l'idéogramme de Beit originel, je voudrais l'imaginer, Beit, tourné dans ce sens-là, l'idéogramme d'une maison avec une porte ouverte, cette maison que nous sommes tous, de manière collective en tant que création, mais aussi chacun d'entre nous, en tant que micro-création, microcosmique, nous sommes cette maison en attente ou en appel d'une habitation qui est celle du principe divin. Aleph. Hein, dans ce mot Bereshit, hein, nous sommes vraiment, dans la contemplation johannique, conduits, inscrits véritablement dans le mystère de ce qui fonde notre humanité. Et ce qui fonde notre humanité, hein, vous le savez, c'est logos, ce mot grec, verbum, verbum, le verbe, que traduit, vous le savez, en hébreu, le mot davar. Et davar, c'est à la fois la chose en hébreu, mais c'est aussi le verbe qui fonde cette chose et qui la rend vivante de la présence de ce verbe. Et dans ce mot davar, il y a bar en hébreu, le fils d'Alet, en hébreu, qui est vraiment cette lettre signifiant ses portes, comme si davar, le verbe logos, nous rappelait qu'il y a en nous une dimension de fils, bar, en devenir, fils ou fille, que nous avons à révéler, à mettre au monde, en passant différentes portes d'enfantement. Hein, ce sont, encore une fois, je m'excuse peut-être pour l'hébreu, pour certains, où on entre un peu dans quelque chose d'un peu plus compliqué au niveau de la parole, et pourtant, ce verbe, cet hébreu, cette langue une, nous parle d'un mystère qui nous fonde. Tout déjà est là. Et Jean nous rappelle que cette dimension du logos, du verbe, vous le savez, hein, ce que nous dira ce prologue, « Kai o logos arx egeneto kai eskenosen enmin » en grec, « et logos a pris chair, il a fait sa demeure parmi nous. » Le verbe créateur, cette dimension d'éternité incréée de nature divine qui fonde toute chose, hein, eh bien, plante sa tente en restant ce qu'il est, mais en venant visiter et informer, infuser cette matière oublieuse, perdue, égarée, et qui, dans l'incarnation de ce verbe, cette plénitude du verbe, retrouve ses lettres de noblesse, la matière eh bien, présence, tabernacle d'une présence, demeure de Dieu, demeure de l'être. Hein, donc, on est vraiment là, à travers ces quelques mots, dans le mystère d'un événement, d'une incarnation, d'une venue, je dirais, d'une rencontre avec la vie transcendante de Dieu, qui vient rencontrer la vie désirante de l'homme. Et pour nous rappeler que cet homme n'est pas uniquement un être destiné à mourir, mais qu'il est destiné à, en se laissant être respiré, en répondant à ce pourquoi il a été créé et qu'il n'arrête pas d'oublier, eh bien, il est invité à vivre de cette vie éternelle que ce Logos est venu lui communiquer, hein, lui offrir en partage. Hein, donc c'est tout le sens, hein, de cette inscription du prologue de Saint Jean. Bon, nous pourrions, je passe un petit peu plus vite, hein, nous pourrions aussi retrouver dans ces épîtres pauliniennes la trace aussi, bien sûr, hein, donc un peu plus tardivement, de manière concomitante, hein, ces deux grands géants de la théologie de l'Église primitive, hein, comme le rappelle aussi Marc dans son polycopier sur le... Voilà, ces deux grands géants que sont Saint Jean et Saint Paul. Et donc Saint Paul, hein, rappelez-vous, bon, je prends un exemple simplement de l'Épître aux Romains, hein, donc, ou de manière évidente, hein, dans sa première épître, bon, même si on ne sait pas si vraiment c'est Saint Paul, ou en tout cas plus celle des Hébreux, on ne sait pas si vraiment c'est Saint Paul qui les a écrites, en tout cas... L'Épître aux Romains sur 1, 3, 4, donc il est dit, rappelez-vous, donc ce moment où Paul, serviteur du Christ Jésus, apôtre par vocation, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, que d'avance il avait promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures, concernant son fils, issu de la lignée de David, selon la chair, établi fils de Dieu avec puissance, sur l'esprit de sainteté par sa résurrection des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc il y a là, hein, Dana rappelait également tout à l'heure cette magnifique parole, hein, devenir Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà, cette incorporation du Christ, hein, donc on va le voir, c'est un petit peu le thème, hein, comment, à travers ces quelques approches que nous proposons aujourd'hui, comment se rappeler simplement ce pourquoi nous sommes faits, et que... Nous avons tellement soif de cela, dans un monde souvent égaré, qui ne nous nourrit pas de cela. Dans nos langages habituels de société et de langage politique sont tellement loin de cela. Ils sont tellement loin de ce mystère de l'être humain. Il nous faut régulièrement revenir à cela, pour nous rappeler ce pourquoi nous avons été créés. Comme s'il nous fallait repartir de l'intériorité, retrouver la beauté des lois qui nous fondent, des structures ontologiques qui nous fondent, pour qu'en repartant de cette intériorité, nous puissions les reprojeter ou les redonner à voir à l'extérieur, pour qu'on ensemence le monde d'une autre conscience. Là est le sens de l'Église, sans doute, aujourd'hui, plus que jamais. Ce n'est pas forcément un lieu de tradition passéiste qui voudrait nous ramener sans arrêt à des logiques extérieures, c'est de nous rappeler l'éternité de ces lois qui sont notre histoire à nous. La Bible, c'est chacun d'entre nous. C'est l'histoire de l'être humain rejoint, convoqué dans un dialogue de feu par une présence amoureuse, passionnée d'humanité. Dans ce dialogue, retrouver, se nourrir, vivre de cela de plus en plus profondément. Pour l'infuser, pour en prendre conscience, pour de plus en plus chacun d'entre nous, là où nous sommes, le rayonner dans cette certitude. C'est ça l'espérance, hein, nous savons bien, hein, donc cette épître au Saint-Paul. Et finalement, nous savons aussi, eh bien, ces différents textes, ces différentes approches exégétiques ou interprétatives vont bien sûr nourrir, vous le savez, la grande tradition liturgique. Cette grande danse où le peuple de Dieu est dansé et pris en main par la grâce de l'Esprit-Saint pour nous ouvrir au mystère trinitaire. cette grande danse liturgique. La liturgie est une danse. Cette danse où nous entrons et nous sommes invités ensemble, un peu comme danse le Père, le Fils et l'Esprit Saint, cette danse en rond, hein, cette péricorée, cet amour, comment ça puisse se manifester, s'incarner dans nos humanités, chacun d'entre nous. Cette danse du vivant. Voilà, donc ces textes, en reprenant, vous le savez, notre Père, mais aussi le Kondakion, des chants dans lesquels nous allons rentrer maintenant, hein, chanter dans toute cette octave des fêtes de Noël et de l'Épiphanie, hein, donc manifestation, voilà, le Kondakion à travers différentes représentations. Et peut-être simplement, voilà, pour terminer cette première partie, vous rappeler combien, je dirais, cette iconographie, mais aussi cette liturgie, et ces différents textes, c'est une première approche, donc, peut-être ce matin, dans une première partie, qui nous rappelle plutôt la dimension imagée, et celle que nous avons l'habitude, peut-être souvent, d'appréhender, hein, cette notion d'une icône, hein, bon, qu'on pourrait vraiment, je dirais, cette icône est sans doute cette représentation, cette incarnation de l'esprit au cœur de la matière, hein, comme nous rappelle l'icône, qui est vraiment sans doute ce lieu où s'inscrivent toutes les données du mystère de Dieu se faisant homme. Et donc, l'icône la plus riche que nous possédions au niveau symbolique, hein, sans doute, où sont inscrits un maximum d'événements, où il n'est pas tant question de rappeler une histoire, même si bien sûr toutes les données sont là, hein, mais surtout de nous dire que cette icône serait pratiquement à entendre comme l'histoire de notre vie, l'histoire de notre humanité, recevant ce don de Dieu, recevant en tant que don la divinité du Seigneur, et comment cette nature, cette création, va se mettre, on pourrait dire, en quatre, ou va offrir ce qu'il y a de mieux ou de meilleur pour répondre à ce don de Dieu. Comme s'il y avait là, dans cette icône, une forme d'échange, de don à don. Hein, donc cette fête de la, je dirais, de Noël, qui est cette fête de la création renouvelée, hein, eh bien, elle dessine, vous savez, une croix, certains le diront, cette croix d'une transcendance, la transcendance de Dieu, qui vient rejoindre la vie désirante de l'homme. Et le centre de la croix, c'est l'enfant, vrai Dieu, vrai homme. Celui-ci a ces deux natures qui sont là, hein. Cette icône a été choisie, parce que je trouve que voilà, cette horizontalité est bien signifiée là, avec la préfiguration derrière Noël de tout ce qui sera aussi l'avènement de la Passion, hein, et la fête de Pâques, vous savez, pour beaucoup d'entre nous, avec les linges, avec les rois mages, avec les porteurs de myrrhe. Donc cette tradition de la croix. Certains aussi verront deux colonnes dans cette... Alors certains verront aussi trois étages, peut-être, avant de passer aux deux colonnes. Ces trois étages de l'icône, je voudrais signifier d'abord la dimension plutôt céleste, la dimension terrestre, avec le doute de Joseph, hein, l'orage, hein, cette petite chaînette qui est l'orage, hein, qui est aussi en réalité cette interrogation devant de l'être humain dont l'intelligence est dépassée par le mystère. Et l'intelligence se résiste parfois. C'est pas possible. C'est pas possible que... Comment est-elle enceinte ? Enfin, vous rappelez-vous tout ce dialogue étonnant que dit Joseph et jusqu'à aller même répudier Marie, hein, ben voilà, vous rappelez un peu tous ces textes. Comment donc là, on pourrait parler de cette notion plutôt de la strate humaine, avec la prise de soin de l'homme, l'humanité, la dimension céleste, hein, donc de ce cercle signifiant l'ineffabilité du Père, avec l'étoile, hein, dernier signe donné par le Père pour signifier la présence du Fils, et puis le monde des anges, hein, donc cette dimension. Et là, certains diront, c'est le domaine du mystère, le domaine de la rencontre entre Dieu et l'homme. Donc là, à travers la contemplation des bergers et des rois mages, et de Marie, ce silence, tout est là, hein, cette grotte, c'est « Ah !» Le ciel et la terre, et là, ah, ce mystère. À ces trois étages, certains décideront cette icône, d'autres décideront aussi, pour certains, cette dimension masculine de l'être et féminine de l'être. Hein. Nous pourrions dire que pour contempler ce mystère, nous avons besoin de ces deux dimensions inhérentes à la création, dans l'altérité homme-femme ou masculine-féminine, féminine aussi en lien avec, bien sûr, la prise de soin, l'écoute plutôt de valeur féminine, je pourrais dire, ou de qualité plutôt féminine, hein, ces sages-femmes, ces femmes, ces mères qui s'occupent de l'enfant. Et aussi, à droite, cette voix du berger, qui est plutôt cette voix de la contemplation de la création, et ces veilleurs, ces grands veilleurs qui connaissent les mouvements de la nature, dans cette dimension intuitive de la matière, hein, qui font appel plutôt, on pourrait dire, au cerveau droit, même si aujourd'hui c'est plus vraiment juste cerveau gauche, cerveau droit, la dimension plutôt féminine de l'être, de contemplation. Hein, donc ces deux colonnes, colonne de droite, qui est plutôt la dimension féminine, et la colonne de gauche, c'est plus la dimension masculine, faisant plus appel aux fonctions de raison, aux fonctions donc d'une raison qui peut être vacillante en Joseph, mais une raison ouverte au mystère avec les rois mages. Et c'est la voix des mages, hein, qui n'est pas la même que celle des bergers. La voix des bergers est en plus la voix au plus proche du mystère, de contemplation, d'intuition. Et la voix des bergers, ils viennent de plus loin, ils viennent d'une connaissance, ils viennent d'une science, des astrologues, des astrophysiciens de l'époque, et qui viennent de loin, hein, pour rejoindre le mystère, dans le cadre d'une intelligence ouverte à l'esprit, qui savent que ce qu'ils savent est très peu par rapport à ce qu'ils ne savent pas encore. Et là, dans cette intelligence à la fois en difficulté, cette raison vacillante, eh bien, s'ouvre, je dirais, à cette raison ouverte à l'esprit avec le monde des scientifiques. Monde des scientifiques, monde des contemplatifs. Donc ces deux colonnes, hein, qui sont là, une féminine et masculine. Voilà. Et puis simplement, vous le savez aussi, cette icône, on peut aussi la décrire comme étant les 7 états de conscience qui nous habitent, offrant la possibilité, en capacité d'accueillir l'être ineffable qui déborde tout. Et vous savez que particulièrement cette icône est riche de par l'existence de ce monde minéral, dont les convulsions, dont, je dirais, les mouvements signifient comme une pâte ensemencée d'une semence, hein, d'un levain. Donc, ce monde minéral. Il faut que je m'arrête, c'est pour ça qu'il faut qu'on arrête. Le téléphone prévient. Le monde minéral, le monde végétal, le monde animal qui est là, le monde humain, hein, bien sûr, en Marie, en Joseph, avec les bergers, avec ce qu'il y a de plus silencieux et de plus tourmenté, hein, qui est concerné, je dirais, par cette incarnation. Le monde aussi, je dirais, de l'ange, hein, ce monde angélique, tous ces mondes intermédiaires, hein, où nous avons ces trois fonctions de l'ange qui nous sont rappelées, l'adoration de l'ange devant la lumière incréée, l'adoration de l'ange qui vient vénérer la lumière incréée dans un corps humain, et là, tel qu'on le voit mieux sur cette icône, hein, c'est peut-être plus cette icône qui est plus riche au niveau de ces différents états. Hein, donc, le monde minéral, hein, végétal, animal, voilà, le monde de l'être humain, hein, le monde de l'ange, donc à la fois l'ange qui honore la lumière incréée, l'ange qui honore la lumière incréée dans un corps, hein, à la finitude d'un corps, et l'ange comme messager de lumière. Qui parle de cette dimension de... Voilà. Et puis, l'étoile, donc, cette étoile de l'espérance, hein, c'est différent au sommet, hein, de l'angle et dimension, donc, où nous entrons entre le créé et l'incréé, hein, qui nous conduit au pneuma, hein, et puis à l'être ineffable. Hein. Toutes ces états de conscience, cette icône nous dit notre monde, le monde extérieur, hein, ce rendez-vous pudique d'il y a 2000 ans, mais en même temps, il nous dit, si nous l'intériorisons, tous les rayons de conscience, ou tous ces états, ces registres de matière qui nous habitent, minéral, végétal, hein, cette dimension aussi au cœur même, hein, de la matière, de ce noir, de ce vide, hein, dont il est question, à la fois vécu comme étant le lieu du péché, de l'enténèbrement, de l'opacification, mais en même temps, ce lieu d'une ténèbre, de l'inaccompli, d'où va jaillir progressivement cet accomplissement, cette lumière. Donc, une icône qui déjà, si nous commençons à l'intérioriser, nous dit tout un mouvement de matière, minérale, végétale, animale, par le chant, par l'invocation, par le souffle, par l'offrande de la paille, par l'adoration dans le principe féminin, en passant par l'intuition, par la contemplation, par les chants des bergers, puis par la dimension plutôt masculine des rois mages, la dimension de connaissance, de savoir, la dimension intellectuelle, de la raison qui est là. Toutes les portes de la connaissance sont concernées pour permettre à l'ange, hein, cette louange, et vraiment d'annoncer, hein, de nous tourner pour permettre ce que progressivement s'incarne, hein, celui dont on ne peut rien dire. Et je propose donc de rester en suspension, hein, de laisser en suspension. Quelques instants, simplement. Écoutez ce que ces images, ce que ces textes nous disent. Être là, dans la sensation pure. Ne rien interpréter. Ce noir de l'icône. Ce monde minéral. Ce monde végétal, ce monde animal, cette humanité que nous sommes, traversée par beaucoup d'orages et pourtant porteuse de ce silence en Marie. Cette voix des bergers, de l'écoute des mouvements de la nature, dans ce toucher kinesthésique du langage des étoiles, du vent, de la nuit. Les rois mages venant déposer leur trésor, fruit de tout un chemin de connaissance, d'alchimie. Le monde de l'ange, laissant chanter et nous permettre la louange. L'étoile. Ces moments d'éveil, de conscience que nous avons tous connus. Ces moments de lumineux, de visitation, rappelons-nous. Ces moments de joie, de paix, où les larmes ont pu couler. Qui nous rappelle notre vocation profonde. Nous tournons vers la source de tout ce qui vit et respire. Voilà, quand vous le sentez, chacun, chacune, on se donne 10 minutes. Il est 11h15. À 11h25, nous reprenons. À 11h25 précis, pour aborder un autre aspect après, si vous le voulez bien.